Plusieurs parmi vous ont participé hier à la liturgie de la scène et ont pris un temps d'adoration nocturne. Et nous voici au matin de ce vendredi et nous allons suivre pas à pas le procès, la mise à mort de Jésus. Car il s'agit bien d'un procès. Ce matin, je voudrais réfléchir à ce que nous pouvons connaître des motifs qui ont conduit à cette sentence juridique de la mort de la croix pour Jésus. À lire les évangiles, nous pouvons distinguer trois étapes vont aboutir à la condamnation à mort de Jésus. La première étape, c'est un débat intérieur au Sanhédrin. Qu'est-ce que le Sanhédrin ? Le Sanhédrin, c'est une assemblée collégiale. Trois collèges sont représentés dans cette assemblée juive. Collège des grands prêtres, collège des anciens, et collège des scribes, souvent communément appelés pharisiens, mais les pharisiens ne sont pas forcément tous des scribes. Donc cette assemblée, nous le voyons dans les synoptiques et dans Saint Jean, se réunir avant même de faire comparaître Jésus. C'est l'évangéliste Saint Jean qui fait sans doute l'allusion, en tout cas une allusion très pertinente à cette fameuse réunion du Sanhédrin qui cherche en son sein à délibérer sur l'affaire Jésus, le cas de Jésus. Commençons donc en lisant le passage dans Saint Jean, chapitre 11e, versets 47 à 53. Est-ce qu'on entend bien ? Ça va. Parfait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. Que faisons-nous ? Disaient-ils. Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit : Vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. L'évangéliste Marc fait une brève allusion à ce conseil du Sanhédrin, au chapitre 14, verset 1er. La Pâque et les azymes allaient avoir lieu dans 2 jours, et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Une brève allusion ici à ce que Saint Jean a décrit plus longuement curieusement, non pas pendant les récits de la Passion du Seigneur, mais avant même l'entrée triomphale à Jérusalem. Cette notation est importante. Pourquoi ? Parce que l'un des motifs qui pouvait en tout cas alerter les autorités de l'époque, c'était cette entrée triomphale à Jérusalem. Le fait qu'il puisse y avoir de la rumeur et une sorte d'agitation autour de ce personnage qui, aux yeux des autorités politiques de l'époque, n'était pas grand-chose. Un agitateur, ou plutôt quelqu'un qui soulevait un peu les foules en province, on dirait aujourd'hui comme cela. Saint Jean note que c'est le geste qu'a fait Jésus dans le temple, à un moment donné, qui est un des motifs d'inquiétude pour le Sanhédrin. Je suis toujours dans cette première étape du procès. Le Sanhédrin est en charge des affaires liturgiques. Mais attention, pour un juif, à cette époque, s'occuper des affaires liturgiques, c'est s'occuper de la paix pour le peuple. C'est s'occuper de la bonne marche du peuple tout entier, qui est sous occupation romaine. Et Rome respecte, tant qu'on respecte le droit romain, les diversités religieuses. Les juifs sont une diversité religieuse parmi d'autres. Les Romains n'ont rien contre les juifs. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem est une chose, mais il y a ce geste qui reviendra souvent dans la bouche des accusateurs de Jésus. Mais il a dit que si on détruisait le temple, il serait rebâti en 3 jours. Donc il n'a pas simplement posé un geste de liberté, un geste prophétique de chasser les marchands du temple, de purifier le temple. Oui, certes, mais il a parlé aussi mystérieusement déjà que lui-même, en tout cas il pouvait le laisser entendre, que lui-même était le temple véritable, non fait de main d'homme. Et on peut détruire le temple de pierre, lui est le temple véritable. Et cela pouvait inquiéter le Sanhédrin, pas seulement parce qu'il fallait maintenir l'ordre liturgique, mais parce qu'il soupçonnait, il pouvait soupçonner que cet homme, au fond, manifestait une proximité avec Dieu qui commençait à être suspecte. Donc, si je résume la motivation du Sanhédrin pour chercher un motif pour tuer Jésus, il y a effectivement une préoccupation légitime de protéger le temple et le peuple. Il y a aussi, hélas, l'obsession égoïste du pouvoir de la part du groupe dominant. Ça nous rejoint toujours. Pour de très bonnes raisons, ceux qui ont en charge la paix d'un peuple, ceux qui ont en charge la prière d'un peuple, ont toujours la tentation de se méfier de ceux dont ils pensent qu'ils viennent prendre la place, qu'ils viendraient prendre la place. Jésus n'a jamais revendiqué quoi que ce soit pour prendre la place du Sanhédrin, ni pour prendre la place des gouvernements romains. Mais étant donné que dans une conception du monde où il n'y a pas cette distinction entre le religieux et le politique, comme nous disons aujourd'hui, il peut y avoir une alliance qui s'installe pour le peuple et qui paraît tout à fait normale. Et s'il est soupçonné que quelqu'un vienne déranger cet équilibre, il devient une menace. Voilà comment, en tout cas, d'une certaine façon, nous pouvons commencer à marcher, à avancer sur les pas du Christ dans sa passion, en regardant, je dis bien ce matin, les étapes de son procès. Première étape donc, le débat interne au Sanhédrin. Deuxième étape, comparution de Jésus devant le Sanhédrin. On distingue bien le temps où le Sanhédrin se réunit en interne, si vous voulez, et puis on va amener Jésus devant le Sanhédrin. Deux accusations circulent contre Jésus. La première, je l'ai évoquée déjà un petit peu, ce n'est pas tant le fait qu'il ait mis de l'ordre à un moment, ou plutôt du désordre, à l'endroit des sacrifices et du comptoir pour les sacrifices pour les agneaux de la Pâque, mais c'est plutôt l'interprétation qui transparaît, à savoir que l'action qu'il a menée n'est posée en chassant les marchands du temple, n'est pas tant une action pour mettre un peu du foutoir ou pour remettre de l'ordre, non, c'est une action qui symbolise un pouvoir qu'il a lui-même, en lui-même, par rapport à cette maison. Et tout de suite, dès que nous parlons de pouvoir, évidemment, les gens ne pensent qu'à travers leur expérience à eux du pouvoir. Tel n'est pas le pouvoir de Dieu. Et ce pouvoir de Dieu est toujours tellement, tellement plus beau que tous les pouvoirs humains. Donc il y a cette première motif d'accusation. Il est en train de manifester une autorité qui nous fait peur. Deuxième accusation qui circule contre Jésus, nous pouvons la lire dans Saint Marc, chapitre 14, versets 53 à 65. Marc 14, 53, 65. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les grands prêtres, les anciens et les scribes qui se rassemblent. Pierre l'avait suivi de loin. Pierre l'avait suivi de loin. La Bible de Jérusalem est écrite tellement petite que, voilà, ça y est, j'y suis. Jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et assis avec les valets, il se chauffait à la flambée. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs déposaient faussement contre lui et leurs témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu qui disait « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme ». Et sur cela même, leur déposition n'était pas d'accord. Se levant alors au milieu, le grand prêtre interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi ?» Mais lui se taisait et ne répondait rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait et il lui dit « Tu es le Christ, le Fils du béni ?»« Je le suis, » dit Jésus. « Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses tuniques et il dit, Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Que vous en semble? Tous prononcèrent qu'il était passible de mort. Les évangiles, tous, j'ai pris saint Marc, mais les évangiles concordent tous pour dire qu'il y a une immense recherche d'honnêteté, de conformité au droit dans ce procès de Jésus. On est très loin, pardonnez-moi, mais d'un espèce de procès populaire à la va-vite, comme on en voit tant aujourd'hui. On est devant un procès extrêmement soigné, qui cherche à respecter le droit, en tout cas une compréhension du droit. On voit apparaître ici au moins ceci, c'est que le Sanhédrin cherche des témoignages et il réalise que les témoignages ne concordent pas. On n'est pas bien certain de ce que Jésus a dit à ce moment-là et comme on entend des choses différentes, on ne peut pas bien conclure. Les témoignages ne concourent pas vraiment. Voulait-il vraiment penser qu'il fallait détruire l'ordre religieux d'Israël? On n'est pas sûr. Et donc, très loyalement, le Sanhédrin ne conclut pas tout de suite. Et on demande au grand prêtre de cette année-là. Alors ce grand prêtre appartient à une famille qui a aussi conscience qu'il est une famille honorable dans le judaïsme et on se succède de père en fils, si je puis dire, à cette charge. Anne et Caïphe s'entendent bien, voilà. Bon, ils sont de la même caste, si vous voulez. Voilà, comme on aurait dit, de ceux qui ont fait le même séminaire un jour. Voilà. Peu importe ici, donc, et Caïphe va donner une raison qui, dans un premier temps, paraît excellente. Il semble qu'il y ait une menace qui pèse sur l'équilibre du temple, l'équilibre du peuple, dont je rappelle, c'est très important, qu'il est un peuple pas simplement religieux, mais un peuple, voilà, au milieu de nations variées qui composent l'Empire romain. Et le grand prêtre a conscience que cette paix, à la fois voulue par Dieu, et pour le moment plus ou moins installé avec la Pax Romana, est tout de même une bonne chose. Et donc, il s'agit de ne pas abîmer cet équilibre, de ne pas trop vite le détruire, et même s'il n'y a pas des témoins, des témoignages qui concourent, il reste que il y a une menace, voilà. Et du coup, il a cette première réaction toute simple. Pour maintenir la paix, peut-être vaut-il mieux quand même qu'un seul homme meure pour ne pas que tout le monde meure. Hein, voilà. Il n'y a aucune méchanceté contre Jésus. Il n'y a pas forcément du tout un sentiment de haine. Non, 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 non. Et quand il déchire ses vêtements, ce n'est pas du tout un geste d'agacement. C'est un geste juridique. Devant un blasphème, celui qui, porteur de l'autorité, manifeste la gravité d'une parole en déchirant une partie de son vêtement. C'est un code, si vous voulez, culturel. Voilà. Bon, comme quand dans un jugement, il y a le coup de marteau sur la table, c'est un code. Et c'est donc à l'endroit du mystère de cet homme que Caïphe prononce ou va entraîner par le Sanhédrin la prononciation de ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, donc ils vont se reporter aux Romains. Cet homme mérite d'être tué, voilà, parce qu'il a blasphémé. Alors il y a différentes façons dont les évangiles rapportent ce dialogue entre Caïphe et Jésus. Chez saint Marc, que je viens de lire tout à l'heure, il n'est pas question d'ailleurs de fils de Dieu, mais tu es le Christ, le fils du béni. On a là des références à l'Ancien Testament. En gros, tu es le Messie. Je le suis, dit Jésus. Voilà. Je le suis. Il y a donc une prétention messianique. Alors là, il faut, j'espère ne pas être trop long, non ça va, puis vous suivez, donc c'est formidable. Il faut quand même aussi faire attention. Prétention messianique, ça veut dire quoi? De tout temps, les Juifs ont connu des personnes charismatiques, enfin oui, qui ont du charisme, des personnes qui étaient suivies par un grand nombre de gens, et dont on disait, c'est lui le Messie. Et je voudrais faire une parenthèse ici, mais avec le cardinal Lustiger, puis après lui d'autres évêques, je suis allé régulièrement rencontrer des Juifs orthodoxes, bon, qui nous ont toujours dit, mais vous savez, les Messies, il y en a eu des milliers dans notre histoire. Jésus n'est qu'un parmi d'autres, simplement l'énigme, c'est qu'on continue de parler de lui 2000 ans après, voilà. Mais des messies, il y en a eu plein, 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 plein. En général, le mouvement s'arrête à leur mort. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement le fait que Jésus, d'une certaine façon, soit, se prétende un peu messie, mais c'est cette conjugaison entre tout de même une prétention messianique et puis le fait qu'il puisse y avoir du trouble. Tout cela conduit à ce qu'il y ait, puisqu'il dit « je le suis », mais qu'il se rapporte peut-être de manière plus pressante à Dieu lui-même, vous verrez les cieux ouverts, mais qui peut le dire, voilà, qui peut le dire, qu'il prononce donc cette accusation de blasphème. Voilà, nous en sommes donc à la deuxième étape qui va conduire à la mise à mort de Jésus. Il est déclaré coupable de blasphème par le Sanhédrin. Je continue de préciser que, contrairement à ce que souvent on dit, il n'y a pas une alliance entre le pouvoir religieux et politique. Ça, c'est une vision complètement moderne qui n'a rien à voir avec le contexte de la vie de Jésus. Je redis que le Sanhédrin est au service d'un peuple qui se pense inséparablement comme un peuple concret, social, et un peuple marqué par un choix de Dieu. Nous passons donc à la troisième étape du procès de Jésus, celui de la comparution devant le gouverneur Pilate. Je vais le lire dans Saint Luc, au chapitre 23, versets 13 à 25. Ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, vous voyez, on est toujours dans ce climat où le Sanhédrin est là, est présent. Pilate leur dit, vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple. Et voici que moi je l'ai interrogé devant vous et je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation pour ce dont vous l'accusez. Hérode non plus d'ailleurs, puisqu'il l'a envoyé devant nous. Alors, il faut ici une précision. Tous les évangélistes ne rapportent pas ce passage par Hérode. Hérode, c'est un petit roi, si vous voulez, une sorte de délégué que Rome reconnaît, un roi local que Rome reconnaît dans le cadre d'une loi dont les maîtres sont bien les autorités romaines. Voilà, c'est une sorte de chef de province appartenant au peuple occupé, mais à qui Rome reconnaît un certain pouvoir. On sait d'ailleurs combien cette dynastie d'Hérode est loin d'être une dynastie de gens angéliques. Il y a eu des gens plus ou moins bons dans cette dynastie, mais il y en a qui ont été terriblement cruels. Voilà. Et quand on va en Terre Sainte, on voit énormément de constructions qui étaient liées à cette grande famille des rois, des Hérodiens. Bon. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Et on est devant un procès qui est quand même... Voilà. Pilate, qui est l'autorité romaine par excellence, qui a un énorme pouvoir... Hein. Pouvoir de police aussi, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort, je vais donc le relâcher, je vais donc le libérer après l'avoir fait châtier. Mais eux, c'est qui ce eux? C'est le Sanhédrin sans doute. Dans d'autres évangiles, on dit aussi c'est une certaine foule. Mais eux se mirent à pousser des cris tous ensemble. À mort cet homme, à mort cet homme. Ce n'est pas le pouvoir en place qui dit à mort cet homme. C'est... Le Sanhédrin dit qu'il mérite d'être tué pour blasphème, mais on se réfère à Pilate qui dit non, il n'y a aucun motif de condamnation. Cet homme, à mort cet homme, et relâche-nous Barabbas. Ce dernier avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Un petit mot ici, un mot, enfin, sur Barabbas. Vous savez que Barabbas, donc c'est un nom juif, un nom hébreu, qui veut dire fils du père. Bar Abba. Abba, Abuna, Abba, père, Bar, fils. Fils du père. La notation de Luc est très précise. Il s'agit de quelqu'un qui a commis au moins un meurtre, mais qui est une sorte de, je n'ose pas le mot terroriste, parce qu'il est tellement aujourd'hui banalisé, mais en tout cas un révolutionnaire dangereux, pour l'équilibre social. C'est un homme qui cherche à déstabiliser par le meurtre, par les attentats, le régime en place. Voilà. C'est pas n'importe qui. Voilà. Et il a forcément des gens qui le soutiennent. Très curieusement, dans tous ces récits de la Passion, ceux qui soutiennent Jésus sont, sinon complètement absents, en tout cas sont d'une discrétion dont on se demande bien pourquoi ils ont été si discrets. Bref, ici, les souteneurs de Barabbas font certainement partie de ceux qui crient « Relâche-nous celui que nous aimons, libère celui que nous avons suivi, libère-nous Barabbas, voilà, fils du Père. Nous avons besoin de chefs comme lui, voilà, qui renverse l'ordre païen, qui renverse l'ordre établi par Auguste, par l'empereur de Rome, et puis on va retrouver la souveraineté juive. Hein, voilà. De nouveau, Pilate, qui voulait relâcher Jésus, je continue le texte, leur adressa la parole. Il cherche à leur parler. Mais eux répondaient en criant. C'est-à-dire en dehors du dialogue. Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, Pilate leur dit, « Mais quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leur clameur gagnait en violence. Et Pilate prononça qu'il fût fait droit à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre, celui qu'il réclamait. Quant à Jésus, il le livra à leur bon plaisir. Donc, il est tout à fait clair ici que ce procès dans lequel nous avançons, la comparution devant Pilate, ne fait pas du tout apparaître un personnage sinistre. C'est tellement facile de classer les personnages, vous savez, un petit peu comme dans les films de cow-boys et d'indiens, il y a les bons et les mauvais. Non, Pilate n'est pas forcément l'homme dont parfois on décrit comme un faible, un injuste. Non. Si nous entrons un peu dans l'attitude de Pilate, Luc précise que par trois fois, il veut relâcher Jésus. Et il ne voit pas de motif de condamnation pour lui. Cet homme n'a rien fait de mal, qui mérite la mort. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait que cet homme, qui est au service de la paix romaine, du droit, si vous voulez, Qu'est-ce qui fait que finalement, il va tout de même livrer Jésus au bon plaisir de ceux qui veulent qu'il soit crucifié? Alors, il y a peut-être... c'est trop vite dit de penser qu'il a cédé à la peur de la foule. Il y a certainement une conjugaison entre le fait de rester dans le droit romain, de ne pas désobéir au droit, d'appliquer la justice, et de servir aussi, peut-être, son propre pouvoir, qui sait, en tout cas un establishment qui tout de même maintient quelque chose de l'ordre d'une satisfaction. Il y a des peuples qui peuvent venir très nombreux à Jérusalem aux fêtes de Pâques. On pense peut-être jusqu'à 100 000 personnes. Donc c'est un événement considérable à l'époque du Christ, ces fêtes juives de Pâques où on monte à Jérusalem, où on monte aussi pour d'autres fêtes. Bon. Et bien sûr qu'il y a l'ordre, il sent bien qu'il y a la menace quand même de, peut-être d'un trouble à l'intérieur de ce peuple. Mais surtout, il y a chez Pilate une inquiétude. Alors, Luc ne le rapporte pas, mais Saint Jean. En effet, lorsqu'il interroge dans Saint Jean le Christ, viens-tu de la part de Dieu? Et alors Pilate, qui est un homme religieux, comme sont tous les hommes de cette époque, se met à trembler. Sa propre femme, d'ailleurs, l'éclaire. Attention. Et il y a donc, comme chez lui, peut-être une peur qui devrait le retenir. Une peur, nous dirions-nous, un peu superstitieuse. Enfin, si je m'en prends à un homme innocent et qu'en plus, je dois avoir les foudres divines contre moi, j'hésite. C'est une hésitation qui est tout à l'honneur de Pilate. Je ne veux pas réhabiliter Pilate. Voilà. Enfin, je voulais montrer la subtilité de toutes ces choses. La foule. Qui est cette foule? Souvent, on dit les Juifs. Saint Jean dit les Juifs. Il désigne essentiellement le Sanhédrin. Et plus largement, peut-être aussi... une certaine proximité de Barabbas. Bref, en aucun cas, il ne s'en prend évidemment au peuple juif. Il est lui-même juif. Jésus est juif. Tous les apôtres sont juifs. Donc, en aucun cas, quand on dit les juifs le livrèrent, c'est une façon de dire aussi, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de le livrer? Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de refuser, en tout cas de ne pas accueillir assez cette révélation inimaginable d'un Dieu qui vient souffrir pour l'homme, d'un Dieu qui vient prendre la place de l'homme pécheur pour le rétablir dans la justice, d'un Dieu qui prend sur lui le mal qu'il n'a pas commis pour l'expurger de notre propre cœur. Et là, nous sentons que nous sommes tous aujourd'hui concernés. Et les Juifs, c'est nous. Finalement, voilà. Je finis cette méditation de ce matin par par une petite réflexion du cardinal Ratzinger dans son livre admirable qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il y a 3 tomes. Il y a un autre aspect, dit-il. La profonde dignité de Jésus ne lui sera jamais enlevée. C'est un grand mystère. Dans la mort sur la croix, la profonde dignité de Jésus ne lui sera jamais enlevée. Et c'est pourquoi Saint Jean ose dire que dans cette mort, la mort du Fils de Dieu, la mort du béni de Dieu, la mort du Messie, Dieu apparaît pleinement. Et que la dignité de Dieu ne sera jamais enlevée, sauf que... nous n'aurons jamais fini de découvrir que la dignité de Dieu est très autre que celle que nous pensons. Il ne veut revendiquer aucun pouvoir à la manière du monde. Voilà. Il ne menace au fond aucun pouvoir humain, ni aucune paix sociale. Et pourtant, il est beaucoup plus que non-violent. Il est celui qui se fait violence à lui-même pour tuer dans sa propre chair innocente notre propre mensonge, notre propre mal, notre propre mort. Je continue Ratzinger. La profonde dignité de Jésus ne peut pas lui être enlevée. Le Dieu caché reste présent en lui. L'homme frappé et humilié reste image de Dieu. Depuis que Jésus s'est laissé frapper, toutes les personnes blessées et humiliées sont justement image du Dieu qui a voulu souffrir pour nous. Alors, au cœur de sa passion, Jésus est une image d'espérance. Dieu est du côté de ceux qui souffrent. Peut-être nous pouvons, en achevant cette méditation de ce matin, demander à Marie qu'elle nous prenne avec elle dans cette contemplation de la croix dans laquelle nous allons avancer cet après-midi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous tous.